Autre chapitre, une sainte stigmatisée qui souffre et qui est humiliée. Il faut dire que Rita, de son côté, n'est pas sainte à moitié. Elle l'est d'autant plus qu'elle se croit davantage indigne des faveurs divines. En toutes occasions, elle reste modeste et toute sainte. C'est bien d'ailleurs ce qui déplaît tellement à l'ennemi de Dieu, Satan. Il essaie par tous les moyens de la faire tomber dans ses pièges, en vain. Lorsqu'il lui souffle des pensées d'orgueil ou autres, vite elle se réfugie dans la prière et dans la pénitence, sachant bien que Dieu seul peut nous délivrer du mal, comme nous le demandons dans le Notre Père. Aussi le démon en est-il pour ses frais. Et Rita sort chaque fois de la tentation plus forte et plus décidée à ne jamais donner volontairement prise à Satan. Elle sait que ce n'est pas pour rire que Dieu nous a aimés et médite souvent sur les terribles souffrances endurées par Jésus pour que nous redevenions des fils de Dieu. Elle y pense tellement que le désir grandit de plus en plus en elle de souffrir davantage, de rendre, si possible, amour pour amour. Quand elle regarde le crucifix et ses plaies faites au Christ durant sa passion, elle voudrait lui ressembler jusque-là. Elle sait d'ailleurs que il n'y a pas si longtemps, François d'Assise est devenu ainsi, par un miracle, comme un crucifié vivant, ayant reçu dans ses mains, ses pieds et son côté ce qu'on appelle les stigmates de la passion. Il n'est pas le seul en ce siècle déjà lointain. Même à notre époque, il y a ici et là, de par le monde, des chrétiens qui ont ainsi dans leur corps les marques de la passion. Rita y pense de plus en plus. C'est d'ailleurs, en ce temps-là, le principal sujet des méditations et des sermons. Justement, vient un jour à Cassia un grand prédicateur. C'est en 1443 pour le carême. Il s'appelle Jacques de la Marca et sera canonisé après sa mort. La communauté des Augustines va entendre sa parole vibrante d'amour. Ce qu'il dit sur la passion pénètre profondément en l'âme de Rita, si bien prête à le comprendre. Il lui semble que son cœur, à elle, va éclater. Aussitôt revenue au monastère, elle se précipite à la chapelle pour essayer d'exprimer son amour à notre Seigneur. Elle est là, à deux genoux devant le crucifix qu'elle contemple. Elle remercie Jésus d'avoir tant souffert pour nous, désire plus que jamais souffrir avec lui. Et voilà que de ce crucifix, devenu soudain comme vivant, une épine se détache de la couronne et vient se planter fortement dans le front de Rita, pénétrant jusqu'à l'os. Si fortement même que sous ce choc inattendu et la douleur fulgurante qu'il provoque, elle s'écroule sans connaissance. Rita sort enfin de son évanouissement et revient peu à peu à elle. Quand on la découvre, elle porte au front cette plaie miraculeuse qui jamais plus ne guérira. Elle la portera jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 14 ans. Voici Rita marquée vraiment par la passion de Jésus. Et c'est une marque très douloureuse à tous les points de vue. D'abord, en effet, cette plaie lui cause jour et nuit une souffrance très vive. Surtout, elle se présente non comme une blessure saine, ainsi que l'étaient par exemple les stigmates de saint François, mais comme une plaie purulente qui coule et dégage une odeur désagréable. Ainsi, à la souffrance physique s'ajoutera pour elle la souffrance morale de l'humiliation. Jésus n'a-t-il pas été bafoué, insulté et même souillé de crachats pendant sa passion? Il connaît la vaillance de Rita, sa soif de souffrir avec lui. Il lui a donc fait, peut-on dire, une très bonne mesure. Mais les sœurs du couvent ne sont pas des saintes. Si elles sont impressionnées par la grâce extraordinaire reçue par Rita, la vue et l'odeur de cette plaie miraculeuse leur sont pénibles. On décide donc d'isoler la stigmatisée dans une cellule éloignée où on lui portera tout juste le nécessaire pour vivre. Pauvre Rita. La voilà donc presque abandonnée, et combien douloureuse de se voir devenue un objet de répulsion. Mais elle ne se plaint pas, bien au contraire, elle n'en finit pas de remercier Jésus d'avoir exaucé son grand désir. Jour et nuit, elle prie, offre sa souffrance unie à celle du Seigneur. Elle a fait maintenant sa profession religieuse, c'est-à-dire qu'officiellement, elle a définitivement décidé de lui appartenir sans réserve jusqu'à sa mort. Il y a longtemps que la décision était irrévocable dans son cœur. Malgré son désir d'effacement, son nom se chuchote dans la ville de Cassia. Déjà, quand elle s'occupait des pauvres avec tant de délicate charité, sa réputation s'était répandue. Maintenant, on commence à savoir que Dieu lui-même l'a marqué. Rita ne songe qu'à demeurer ignorée, soucieuse d'être utile par sa vie crucifiée. C'est qu'il y a, en ce temps-là, grand besoin de prière et de pénitence. L'Église romaine subit une crise douloureuse. Le grand schisme de Byzance a séparé d'elle les chrétiens d'Orient. Partout, d'ailleurs, ce ne sont que divisions. Tout le monde se dispute, tandis que les guerres accumulent les ruines en bien des pays.